VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par l'attaque à Nice, en France. Le président François Hollande a décrété 3 jours de deuil national en France, de samedi à lundi, après l'attentat qui a fait au moins 84 morts jeudi soir à Nice. Les drapeaux sont en berne depuis aujourd'hui. Un projet de loi prolongeant jusqu'à fin octobre l'état d'urgence en vigueur depuis les attaques djihadistes de novembre 2015 à Paris sera par ailleurs soumis mercredi et jeudi prochain au Parlement. Cela dit, c'était l'horreur hier à Nice. Un camion a foncé dans une foule en pleine célébration de la fête nationale vers 22h30 heure locale. Anne Albertson.
Le dernier bilan fait état de 84 personnes tuées et plusieurs dizaines de blessés dans cette attaque terroriste. Les victimes revenaient d'un spectacle de feux d'artifice sur la promenade des Anglais, une avenue bordant la façade maritime de la ville de Nice et qui grouillait de monde. Les médias français font état d'une pièce d'identité trouvée dans le camion, suggérant que le conducteur avait la double citoyenneté française et tunisienne et était âgé de 31 ans. La police a tué le chauffeur du camion et cherche à savoir s'il avait des complices. Les témoins affirment que le conducteur du camion tirait avec une arme à feu alors qu'il zigzaguait à travers la foule. Les autorités ont aussi révélé que le camion était bourré de grenades.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a fermement condamné l'attaque. « Nous sommes solidaires de la France, notre plus vieil allié, au moment où elle fait face à cette attaque », a déclaré M. Obama dans un communiqué. Son secrétaire d'État, John Kerry, qui avait assisté au défilé du 14 juillet à Paris plus tôt dans la journée, a fustigé une attaque affreuse contre des personnes innocentes durant un jour qui célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité. Même sentiment d'indignation dans le reste du monde, le point avec Jean-Roger Bion.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau sur son compte Twitter, les Canadiens sont bouleversés. La nouvelle première ministre britannique Theresa May est tenue informée du terrible incident à Nice selon Downing Street, qui s'est dit très choqué et inquiet. Le président brésilien par intérim Michel Temer a condamné cette abjecte et outrageante action perpétrée contre des innocents qui célébraient les valeurs universelles les plus élevées, la liberté des peuples, l'égalité entre les citoyens et la fraternité. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a fait part de la solidarité de son pays, tandis que son homologue colombien Juan Manuel Santos a assuré rejeter toute forme de violence. Le président sénégalais Macky Sall, les attentats inqualifiables tuant lâchement autant de victimes innocentes ce soir à Nice m'attriste profondément.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conflit au Soudan du Sud, la récente flambée de violence à Djouba, la capitale, et la crainte d'une nouvelle guerre civile dans ce pays seront au cœur des discussions du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche à Kigali, au Rwanda. L'ambition affichée par l'organisation panafricaine de faire taire les armes sur le continent africain d'ici 2020 a été une nouvelle fois sérieusement mise à mal par le déferlement de violence pendant 4 jours à Djouba entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles aux ordres du vice-président Riek Machar. Aucun bilan des 4 jours de combat n'est disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes, militaires et civiles, dont 2 casques bleus chinois ont été tués à Djouba, ce qui a mis gravement en péril l'accord de paix signé en août 2015. L'Union africaine, sous l'impulsion du Rwanda, va lancer un passeport symbolique qui, à terme, permettra aux dirigeants et citoyens africains de voyager librement. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Maurice Magorané.
Le 27e sommet de l'Union africaine, du 17 au 18 juillet prochain à Kigali, marquera le lancement effectif du passeport africain d'après la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo.
Le passeport panafricain qui va être lancé au cours de ce sommet fait partie d'un processus. Donc nous sommes au début d'un processus d'intégration continentale. C'est pour cela que les quelques passeports qui seront délivrés ici à Kigali sont plus ou moins symboliques. Nous voulons signaler le début d'une ère de libre circulation.
L'objectif de ce passeport africain, c'est de faciliter à terme la circulation des personnes et des biens en vue de l'intégration économique et sociale du continent. Les premiers bénéficiaires en seront les chefs d'État et des gouvernements, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union africaine. Pour Jennifer Chiliga, la directrice de cabinet de la Commission de l'Union africaine, l'avènement du passeport africain sera un pas de plus vers une Afrique forte, prospère et intègre. Elle assure que cette fois-ci, c'est du concret.
Je peux vous assurer que ça ne sera pas un passeport de plus. La différence avec les autres passeports, lorsque vous les avez, vous êtes obligé d'avoir un visa pour le voyage. Mais celui-ci vous assure de voyager en Afrique sans visa.
Au cours de ce sommet, quelques passeports seront remis symboliquement au président, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères et aux autres représentants. Ensuite, chaque pays prendra le relais, selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo.
Il n'y aura pas de passeport africain que pour les chefs d'État, que pour les diplomates. Mais comme c'est un sommet de chefs d'État, de diplomates, on a voulu lancer ce processus d'une manière symbolique. Et puis, la deuxième étape sera à chaque pays, en collaboration avec l'Union africaine, d'imprimer ses propres passeports et de pouvoir les distribuer selon la législation nationale.
Ce passeport s'inscrit dans un programme plus large, celui de l'Agenda 2063, un plan d'action sur 50 ans, fixé en 2015 pour faciliter l'intégration régionale africaine. Maurice Mangorane, VOA Afrique, Kigali.
Fin hier à Arusha, en Tanzanie, des consultations pour une sortie de crise au Burundi. Ce second round a permis une avancée significative. Des leaders de la plateforme Sénared, qui avaient boycotté les premières consultations en mai dernier, ont été conviés au dialogue. L'ancien président tanzanien et facilitateur Benjamin Mkapa doit présenter un rapport dimanche à Kigali au Rwanda devant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en vue de faire approuver son plan de sortie de crise qui deviendrait alors contraignant pour toutes les parties. On écoute l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantouganya.
Je pense que le médiateur a une stratégie, à mon avis, très opportune, qui peut aider les uns les autres à se rendre compte de la gravité de leur responsabilité par rapport aux attentes du peuple burundais aujourd'hui. Il a pu écouter tout le monde. Il a pu constater là où se trouvent les obstacles. Et ce qu'il faut encourager, c'est que le facilitateur doit rendre compte à ceux qui l'ont mandaté. En l'occurrence, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et maintenant, il faudra que le chef d'État soutienne l'action qui mène le facilitateur et cela pourra aider dans les jours à venir. En tout cas, en ce qui me concerne, mon souci est que chacun parmi les leaders qui sont concernés, moi-même y compris, nous fassions les efforts nécessaires pour que ces négociations que tous les Burundais attendent se réalisent en trouvant les solutions les plus adéquates et les plus efficaces possibles pour que cette crise soit surmontée, trouver des voies de solution qui répondent effectivement aux attentes des Burundais et qui rassurent la région qui s'inquiète certainement des conséquences d'une quelconque dégénérescence de la crise burundaise.
L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantouganya à Arusha en Tanzanie. À Sao Tomé et Principe, quelques 111 000 électeurs sont appelés à choisir leur président dimanche. Ce petit archipel africain pauvre et endetté est en quête d'investissement pour développer son potentiel touristique et pétrolier, en plus des productions de café et de cacao. Et puis au Nigeria, des contrats d'équipement des forces armées qui luttent contre l'insurrection des islamistes de Boko Haram ont été entachés de corruption. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement nigérian dans un communiqué faisant le point de son enquête sur l'utilisation des fonds alloués à la sécurité. Une commission d'enquête mise en place par le président Muhammadu Buhari, élu l'an dernier, a constaté que des contrats de défense avaient été attribués à des sociétés qui manquaient de la compétence technique nécessaire, a précisé le communiqué. En Irak, des milliers d'Irakiens sont descendus aujourd'hui dans la rue à Bagdad pour réclamer des réformes au gouvernement accusé de corruption malgré les mises en garde des autorités qui leur avaient demandé de rester chez eux. Cet appel à une manifestation massive avait été lancé par l'influent chef chiite Muqtada Sadr pour réclamer un nouveau gouvernement composé de technocrates. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.